VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Midi à Kinshasa, 11h à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une forte présence sécurité était visible. Aujourd'hui à Kinshasa, aux premières heures d'une journée de marche de l'opposition en République démocratique du Congo contre le président Joseph Kabila. Dans la capitale, au moins deux jeunes ont été interpellés selon l'AFP dans un quartier populaire et sur la route du campus universitaire étroitement surveillé par une forte présence militaire. Les marches ont été interdites à Kinshasa, Goma et dans d'autres localités par les autorités locales. Toujours en République démocratique du Congo, le vote citoyen appelé par la société civile va se poursuivre le week-end prochain au pays et à l'étranger. Les organisateurs souhaitent avoir une plus grande affluence après la tentative de la semaine dernière. Eddy Isango a joint l'un des initiateurs du vote, le professeur Jean Bellet.
Au moins 830 000 Congolais ont voté en ligne, c'est-à-dire que par téléphone, par WhatsApp, par Internet, ils ont utilisé beaucoup d'autres moyens. Et sur place au Congo, nous avons collecté près de 92 000 personnes qui ont voté, notamment à l'est du pays, des personnes qui ont voté aussi à Kinshasa, et puis aussi dans la diaspora congolaise. Alors, si nous avons décidé de donner encore une chance aux Congolais, c'est parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant qu'il y avait ce vote. Et aussi, beaucoup de gens n'y croyaient pas que ça allait se faire. Et on a dénombré, par exemple, dans tout Kinshasa, près de 130 000 personnes se sont déplacées pour aller voter. Mais malheureusement, les agents électoraux que nous avons mis en place ne se sont pas présentés pour plusieurs raisons. D'autres raisons, c'est que les agents de sécurité se sont présentés comme agents électoraux et ils ont saboté.
Il existe une commission électorale nationale indépendante au Congo. Vous vous parlez de vote citoyen. C'est en fait quoi les votes citoyens?
Bon, le vote citoyen, c'est parce que la commission électorale dont vous venez de parler a échoué complètement dans sa mission. Ils n'ont pas pu organiser les élections telles que prévues dans la Constitution. Donc, ils ont violé la Constitution. Ils ne sont plus légaux. Ils n'existent plus du point de vue constitutionnel. Le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui lui avait donné ce pouvoir constitutionnel en votant la Constitution. Le pouvoir du peuple aussi, c'est le pouvoir du président de la République et des sénateurs, des parlementaires qui revient aussi au peuple congolais. Et ils étaient seulement des locataires. Maintenant, comme leur contrat de location est fini, c'est le propriétaire du pays qui est le peuple qui reprend tout. C'est pourquoi le peuple va organiser maintenant les élections pour choisir les nouveaux mandataires qui vont l'aider à aller aux élections apaisées et puis démocratiques dans les meilleures conditions.
La CENI a déjà fixé la date du 23 décembre 2018 pour la présidentielle.
Nous ne faisons pas confiance à ce que la CENI vient de fixer. En 2015, M. Nanga parlait de 16 mois pour organiser les élections. Puis à chaque étape, il parle d'une nouvelle date. Et regardez, il avait parlé de 2019. Deux semaines après, il parle de 2018. D'un coup, il a levé 360 jours. Ça, ce n'est pas crédible. Et puis aujourd'hui, il a parlé de vote électronique. Il a dit que nous avons la machine à voter, mais ce n'est pas le vote électronique. Ils sont en train de tromper la population, de raconter des histoires, et ce n'est pas correct.
Déjà, les gens ne se sont pas présentés les week-ends derniers. Est-ce que ce n'est pas un discrédit? Pensez-vous que les Congolais vous suivent?
Ah oui, bien sûr. Et je vous dis, nous avons reçu les Congolais qui sont en Inde, qui sont en Chine, qui sont au Brésil, et qui sont au Pakistan, et qui sont en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, partout en Afrique. Ils réclament où est-ce que nous allons voter. Donc les Congolais sont en train de nous suivre. Partout au Congo, les Congolais nous appellent.
Jean Bellet, l'un des initiateurs du vote citoyen de la société civile congolaise. Le cinquième sommet Europe-Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a débouché hier soir sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye, devenu un des thèmes centraux des débats. Les dirigeants se sont mis d'accord pour mener des opérations d'évacuation d'urgence dans les prochains jours ou semaines. Une commission d'enquête de l'Union africaine va être mise en place. Le président de l'Union africaine, Alpha Condé, a appelé la communauté internationale à agir dans l'urgence.
Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge.
La question de la sécurité a aussi été abordée avec la montée en puissance de groupes djihadistes. Le G5 Sahel a besoin d'une force africaine capable d'imposer la paix, dotée d'un mandat à la hauteur des menaces et d'un financement pérenne, a plaidé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au moins 6 personnes, dont 4 gendarmes maliens, ont été tuées et d'autres blessées lors d'affrontements lundi entre orpailleurs à la frontière entre le Mali et la Guinée. Le point, Yacouba Ouedraogo.
Les quatre gendarmes sont morts lors d'une opération de sécurisation des populations sur le site d'exploitation minière d'une localité malienne à la frontière guinéenne, selon les forces armées du Mali. Elles ont affirmé que les gendarmes ont été victimes de tirs de ressortissants guinéens suite à un conflit sur l'exploitation d'un site aurifère entre le village malien de Liaoleni et un village guinéen. De leur côté, les forces de sécurité guinéennes estiment que ce sont plutôt les orpailleurs maliens, épaulés par des chasseurs et des gendarmes, qui ont attaqué des Guinéens sur une mine d'or du village de Faranoko, en Guinée. Bamako et Conakry ont envoyé des renforts sur place. Les affrontements entre orpailleurs sont récurrents dans cette région frontalière. La Guinée est riche en minerais de fer, de diamants, d'or et de bauxite et détient 2/3 des réserves mondiales.
Le chef de l'État français Emmanuel Macron va déjeuner samedi avec l'ancien président américain Barack Obama en visite en France. Barack Obama sera présent samedi à Paris où il doit notamment intervenir devant les Napoléons, un réseau de plus de 3000 acteurs de l'industrie des communications. L'ex-président américain avait officiellement apporté son soutien à Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée le 4 mai sur les réseaux sociaux à 3 jours du second tour de la présidentielle française entre le jeune centriste et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen à Washington. Il est 6h06.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Russie a rejeté aujourd'hui l'appel des États-Unis à couper les liens commerciaux et diplomatiques avec la Corée du Nord après son dernier tir de missile, appelant à des négociations et accusant Washington de vouloir provoquer Pyongyang. Les États-Unis ont demandé à la Chine de cesser toute livraison de pétrole au régime nord-coréen. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, estimant nécessaire de continuer à traiter la Corée du Nord comme un paria. Le Sénat des États-Unis à majorité républicaine a entamé mercredi la dernière ligne droite avant un vote crucial sur la grande baisse d'impôts promise par le président Donald Trump, priorité politique de la fin d'année. Le vote final devrait avoir lieu ce soir ou demain vendredi selon le nombre d'amendements. Un projet de réforme de la fiscalité a déjà été adopté par la Chambre basse, la Chambre des représentants, le 16 novembre. Si le Sénat adopte sa version cette semaine, les deux chambres devront harmoniser leurs différences au sein d'une commission spéciale et revoter. L'objectif des chefs du Congrès étant d'adopter définitivement la réforme avant la fin de l'année. Le Royaume-Uni est très proche d'un accord avec Bruxelles sur le règlement financier du Brexit, a assuré hier un commissaire européen, mais les chiffres avancés par les médias, qui s'élèvent jusqu'à 55 milliards d'euros, ont provoqué des remous chez les élus britanniques. Anastasie Toudièche.
La commission qui négocie au nom des 27 n'a jamais donné de chiffres officiels. Mais selon le Daily Telegraph et le Financial Times, la facture du Brexit serait de 45 à 55 milliards d'euros pour le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique qualifie ces chiffres de spéculation. Nigel Farage, député européen et ex-chef du parti europhobe UKIP, a jugé inacceptable un tel accord. Le leader du parti libéral-démocrate, farouchement opposé au Brexit, a souligné la double perte subie par le Royaume-Uni, qui doit payer un lourd tribut pour quitter une institution dont il a bénéficié depuis des décennies. Le député travailliste pro-européen Chuka Umunna a quant à lui estimé que les chiffres annoncés constituaient le symbole évident de l'impossibilité à faire le divorce dans les conditions qui ont été présentées au peuple britannique. Les 27 sont censés annoncer lors d'un sommet à la mi-décembre s'ils acceptent d'ouvrir la deuxième phase des négociations.
Après la Birmanie, le pape François est arrivé ce jeudi au Bangladesh voisin, terre d'exode de centaines de milliers de réfugiés rohingyas dont le spectre plane sur son voyage en Asie. Les prises de position du souverain pontife sur la crise humanitaire des Rohingyas sont très attendues au Bangladesh. Le pape argentin s'est ému à plusieurs reprises ces derniers mois du sort de ces parias, torturés et tués en raison de leur tradition et de leur foi. Mais diplomatie oblige, le pape n'a pas abordé frontalement la question lors de ses escales à Rangoon et Naypyidaw. Le clergé local lui avait déconseillé de prononcer le mot Rohingya tabou dans ce pays qui considère cette minorité comme étrangère. Jean-Roger Billon à ce micro, au prochain journal dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi. Merci pour votre fidélité. À tout à l'heure sur la même station.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.